Les petits papiers d'été qui démarrent, donc les petits papiers d'été exceptionnels avec l'an 02 s'il vous plaît et la ZAD du testé. La ZAD, c'est pour maintenant qu'il faut résister avant septembre. Donc, comme je vous disais également, nous aurons l'an 02, le magazine, oui, et oui, peut-être la suite de l'an 01, tout simplement.
Toulouse, Médicis c'est populaire ! Toulouse, Médicis c'est populaire ! Toulouse, Médicis c'est populaire !
Donc la première partie de l'émission dédiée à l'an 02, la seconde à la ZAD du testé où le 15 août dernier, réoccupation, c'était le mot d'ordre, une poignée de résistants étaient là et combien par la suite, nous verrons ça. L'an 02, encore un pas de côté. L'écologie est sur toutes les bouches, toutes les ondes. Sa nécessité et son urgence sont unanimement proclamées et partout, en effet, les menaces pointent. De tous côtés, l'horizon s'assombrit sur un monde aplati, rétréci, asphyxié. Au Japon, l'inconséquence nucléaire a fait cruellement bégayer l'histoire. En Afrique, le développement perpétue sa litanie de misère, de violence, d'exode. En Occident, le capitalisme, toujours recyclé, mâche de la chlorophylle, mais ne jure que par la croissance qu'il abandonne. Pendant que son avatar chinois sous sa forme Mao mercantiliste se montre résolu à faire péter la planète sans état d'âme dans sa marche inexorable à la puissance et à son hôte du progrès. C'est le premier paragraphe du projet éditorial de l'an 02 et on reçoit aujourd'hui Aude. Bonjour Aude.
Bonsoir.
Bonsoir à toi. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un heureux hasard donc qui fait qu'on se rencontre et que l'on va pouvoir découvrir avec toi l'an 02. L'an 02, tu en es donc une des cofondatrices, également rédactrice et puis finalement militante. Comment dois-je te présenter ?
Oui, c'est comme ça, c'est bon.
Ben alors, on va déjà partir tout de suite sur Kézako, l'an 02.
L'an 02, ça se présente sous la forme d'une revue tout en couleur, format A4 ou à peu près, et qui fait une soixantaine de pages dans lesquelles il y a un tiers par exemple de pages visuelles, et puis deux tiers de discours un peu militants, et puis qu'on essaie de rendre accessible. On essaie aussi d'aborder des sujets un petit peu pointus, dans l'idée toujours de le mettre à disposition de tout le monde et de pas utiliser trop de gros mots et puis de rendre ça un peu plus attrayant.
Et tu peux carrément dire que quand tu dis donc beaucoup d'images visuelles, c'est carrément de fort belles photos sur un papier glacé assez sympathique, agréable au toucher même. En fait, on sent qu'il y a une certaine recherche de l'agréable et du beau dans ce temps 02.
Ouais, ça a été un des premiers trucs qu'on s'est dit quand on a fait des réunions. C'était on parlait de faire une revue qui est belle. C'est un mot qui apparaissait souvent. Et quand on a sorti enfin la revue un an après, tout le monde nous disait la même chose. Belle, c'est une revue qui est vraiment belle. C'est le mot qui apparaissait souvent. Donc on avait réussi notre défi. Et puis c'est du papier. Ouais, puis c'est du papier. Ah, je m'aperçois que je fais un peu bouger la table. J'espère que ça
s'entend. Oh, c'est bien, ça va très bien, t'inquiète pas.
Et voilà, c'est du papier qui est recyclé à 70%, mais qui en effet a un aspect assez soigné.
C'est chic, quoi, un petit peu. C'est pas agréable à tenir en main.
C'est pas trop du granola, quoi.
C'est clair.
Mais l'idée c'est de permettre quand on a des photos ou des dessins d'avoir un rendu super, quoi. Et puis du beau papier pour présenter au mieux en fait les œuvres des artistes.
Donc ça, c'est effectivement tout le côté, on va dire, très agréable à la lecture. Après, il y a la forme qui est fort agréable, et ça ne cache rien du tout. Et le fond. Alors, qu'est-ce que c'est que l'an 02? Pourquoi faire un énième magazine d'abord? Et puis pourquoi ce nom, bien sûr?
Alors, le fond et la forme, en fait, ils sont en dialogue. Parce que c'est vrai qu'on travaille souvent avec des artistes qui ont des choses à dire, qui ont des modes d'intervention en fait, qui sont un peu différents des nôtres en fait, des discours qui sont pas aussi clairs, mais qui souvent interrogent en fait sur euh, sur le monde tel qu'il est. Enfin, c'est vraiment des choses, des gens qui ont des choses à dire sur un autre registre que celui de la revue militante à laquelle on est un peu plus habitué. Et je me souviens plus de ta question.
Effectivement, tu réponds fort bien. Effectivement, tu dis voilà, envie de pas faire que une revue militante qui s'adresse aux militants, mais quelque chose qui est peut-être plus large, qui s'adresse à un plus large auditoire.
Ouais, qui est disponible dans toutes les librairies. C'est-à-dire qui du coup rentre dans cette chaîne du livre avec des procédures un peu compliquées, une économie aussi qui est un peu compliquée, qui correspond pas du tout, pas trop à ce qu'on aurait envie de faire spontanément. Mmh. Mais l'idée est d'en être partout et qu'on puisse nous découvrir sans nous rechercher. Mmh. Et de faire des surprises.
Donc en clair, par exemple, à Toulouse, on trouve le semestriel, on rappelle qu'il est semestriel. Donc l'an 02, on le trouve à Terrain Nouvain, à Ombre Blanche, et où encore ?
Chez Flourifrère aussi, je crois.
Ouais, rue de la Colombette.
Ouais.
Ouais. Donc voilà, que des bonnes maisons, vraiment branchées, les bonnes librairies, voilà, des librairies plutôt.
Oui, on a déjà fait des rencontres chez Terra Nova aussi, et voilà.
D'accord. Donc on sent que oui, ce côté d'aller aussi vers son public, mais voilà, on parle de la forme et de comment c'est distribué. C'est vrai que c'est un petit peu cher aussi, mais voilà, c'est une fois tous les 6 mois, donc 10 € les deux. Ou 7 euros donc à l'unité.
Ouais, c'est ça.
Et puis, c'est surtout, comment dire, après, au niveau des sujets, vous êtes quand même dans une veine très militante, quand même, ne vous en déplaise.
Ouais, les sujets, ils sont très militants. Okay. Après, on essaie de les aborder d'une manière un peu décalée pour pas s'ennuyer nous-mêmes, en fait. Et faire un peu poétique. On a fait un numéro, par exemple, sur les sorcières. Sur les ogres et les sorcières. Et l'idée étant qu'en fait, en fait, les sociétés dans lesquelles on vit, qui se vivent comme très très rationnelles, en fait, très très carrées et tout, sont pas si rationnelles que ça. Puis il y a des choses un peu magiques et tout. Les incantations à la croissance, par exemple. tu vois, ce genre de choses, en fait. On trouvait qu'il y avait des caractères un peu magiques, en fait, dans la société dans laquelle on vit. On a fait aussi des choses, par exemple, sur l'action collective. Tu vois, c'est vrai qu'on a tendance à dire il faut être le plus nombreux possible et puis on va faire des choses super. Il y a avoir un côté aussi où on regarde que le bon côté des choses, le côté de la puissance que c'est d'être nombreux. Nous, on est allé voir du côté de là où ça coince, en fait. De là où ça va plus trop, où il y a des conflits, de ce qui nous empêche un peu, de nous qui avons été élevés dans une société très très individualiste, à construire du collectif. Donc chaque fois on est un petit peu en décalage.
J'ai vu que vous avez fait notamment un dossier sur concevoir ensemble son lieu de vie.
Ouais, notamment. C'était dans ce dossier qu'on avait fait quelque chose sur. Pareil, tu vois, ça c'est un texte qui a été écrit par des architectes. Et c'est vrai qu'on a eu tendance à leur demander ce qui coinçait plutôt que d'avoir le discours qui dit que c'est tout beau et que voilà, c'est facile, faites-le chez vous. On avait envie. Et puis on n'avait pas envie de savoir. Enfin, on n'avait pas envie de savoir où ça coinçait juste pour appuyer, pour faire mal et tout, mais pour évoluer aussi, pour savoir c'est quoi nos problèmes, pour arriver à les dépasser. Quoi.
C'est le travail du journaliste quand même, effectivement, d'aller voir la situation et puis voir les perspectives possibles à partir de ce qu'on a.
Ouais.
En tout cas, j'ai trouvé sympa effectivement cette idée. On sent cette volonté de. Il y a quand même cette démarche là dans le projet éditorial dont j'ai lu une petite partie simplement. Cette démarche donc de lutte contre les inégalités, donc dire que non, décidément la mondialisation n'est pas heureuse. Parce que partout on sent que ça coince, et on sent aussi que vous avez une veine quand même très écolo quoi. Hiroshima, Tchernobyl, Fukushima font partie de des choses effectivement vraiment dénoncées dès le projet éditorial.
Ah oui, c'est vraiment de là qu'on vient en fait, on serait quand même plutôt de l'écologie politique. Ouais.
Alors allons-y, qui êtes-vous au départ, les gens qui effectivement créent l'an 02, voici 3 ans, donc en 2011, c'est bien ça?
Oui, on était nombreux d'anciens de Chiche. Les jeunes écolos alternatifs et solidaires, dont il y a eu plusieurs générations de groupes à Toulouse. Et on était plusieurs générations, 3 générations de gens de Chiche.
trois générations de gens de chiche. Alors ça fait presque un discours d'ancien. Quand tu entends trois générations, ça veut dire des groupes qui, au bout de combien, de 2, 3, 4 ans, bougent, changent, split, changent.
Ouais, c'est pas des générations de 30 ans, hein, c'est des générations d'une vie d'étudiant, et puis au bout de quelques années, tu changes de ville, tu vas faire un master ici ou là, ou les gens qui s'arrêtent parce qu'ils ont des enfants. Enfin, il y a plein de raisons qui font qu'un mouvement de jeunes, c'est un mouvement qui est pas extrêmement stable. Et donc, tu vois, il y a des groupes qui meurent, et puis ensuite, un an après, il y a quelqu'un qui remonte le groupe, et puis...
Alors, les jeunes des Verts, alors disons-le clairement, c'était pas revendiqué, c'était les jeunes, effectivement, issus de la mouvance des Verts, hein, le parti politique, hein, disons-le, mais qui avaient fait un choix d'agir autrement, finalement, qu'avec le système du parti, si je comprends bien. C'est un groupe qui décide de faire ses actions pas de son côté.
Ouais. Alors, on n'était pas exactement les jeunes des Verts, on était les jeunes des Verts et de trois autres partis politiques.
Allez, lesquels ?
Alors, je sais même plus comment ils s'appellent, la CAP, CES... C'est des dinosaures de la politique, c'est Convergence, Écologie, Solidarité, enfin des partis qui ont une expérience qui ont une existence que temporaire. Enfin, et puis un parti qui s'appelait à l'époque pour une alternative rouge et verte, et qui s'appelle les Alternatifs aujourd'hui. Et qui est un petit parti qui... Et donc on avait deux jambes, il y en avait juste une qui était énorme et l'autre qui était toute petite. Mais on a toujours été un peu arcade dans la mesure aussi où, tu vois, on parlait avec d'autres partis politiques qui avaient une autre culture, tu vois, qui est plus Parti Socialiste Unifié, PSU, ouais, une culture vraiment rouge et verte, éco-socialiste, alors que les Verts étaient plus à l'époque en lien avec les assauts environnementales, avec tout ça.
Donc l'époque, c'est quelle époque ?
L'époque, c'est la fin des années 90, c'est la candidature de Voynet en 95, c'est décembre 95, c'est tout ça en fait. Ça a été créé en 96. Et on a acté la mort de Chiche à Notre-Dame-des-Landes en l'été 2009.
Et pourquoi donc ? Est-ce que tu peux revenir dessus ?
Pourquoi ? Moi, j'étais juste observatrice, j'étais déjà trop vieille, mais, non, plus trop d'envie, en fait, de faire ça. Puis envie aussi de rejoindre d'autres groupes, de se fondre dans un collectif plus gros, donc... Voilà.
Comme si aussi peut-être les Verts ne suffisaient plus donc aux espérances de Chiche.
Oh, les Verts, on avait rompu avec eux bien avant en fait. Mmh. On avait rompu avec eux vers les années 2000 à peu près. Parce qu'il y avait il y avait des gens chez les Verts qui avaient envie d'avoir un mouvement de jeunesse plus normal.
Normal.
Ouais, plus calme, plus raisonnable, plus... Alors ils ont monté un mouvement de jeunesse. Lequel est devenu quand même un foutraque, parce que c'est un mouvement de jeunesse, en fait. Donc voilà, on a beau créer de toutes pièces des mouvements de jeunesse bien calmes, en fait, si on met des jeunes dedans, au bout d'un moment, c'est ingérable.
Bah, globalement, si je comprends bien, ce que tu veux dire, c'est que c'est un socle, une espèce de cadre qui a été créé par les Verts, dans lequel on a inséré des gens, genre, mettez-vous là bien parqués, quoi.
Ouais, il y a eu ça au début, puis en fait, très vite, c'est devenu les jeunes qui sont arrivés se le sont réappropriés, et puis voilà, on a fait à peu près les mêmes choses, on s'est retrouvés sur les mêmes actions, enfin...
Voilà. Et quelle est la différence de Chiche, justement, avec ça, très nettement, pour toi ?
La différence de Chiche avec ça, je saurais pas dire. Mais alors, un truc qui était intéressant à Chiche, en fait, c'est qu'on avait vraiment, vraiment brassé très très large. On avait des gens plutôt des autonomes, en fait, qui étaient plutôt anards. On avait des gens plutôt environnementalistes. On avait plutôt des gens plutôt sociodémocrates. C'était mon cas à l'époque. J'étais jeune. Et on avait vraiment tout le monde qui était assis à la même table et qui se fritait. Mais on était assis à la même table. Et voilà, c'était pas mal. Puis on faisait beaucoup d'actions directes, un petit peu médiatiques, un peu comme ça. Mais c'était à l'époque, on n'était pas encore blasés d'essayer d'atteindre un petit peu l'attention des journalistes et tout. Ouais. Voilà.
Effectivement, sur Toulouse, en fait, en tout cas, et sur cette antenne, effectivement, il y a eu plusieurs fois des gens dans de Chiche qui sont passés, dont on a fait aussi un petit peu donc le lien avec les auditeurs. Et puis, il y a eu notamment toutes ces actions sur Toulouse, deux journées sans achat. Tu me parlais, moi, je les ai pas vues ces journées-là, mais les zombies des supermarchés, c'est ça?
Ouais. C'est une action assez simple, en fait. Il suffit de faire le zombie dans un supermarché. Au moment des soldes, dans un centre commercial, enfin c'est assez facile à mettre en place. Ouais.
Et puis il y a eu des actions de chiches diverses et variées, je crois que le chiche faisait partie du CANT aussi, du collectif antinucléaire toulousain, quand même, ça a été aussi important. Les quelques actions un petit peu importantes qui ont eu lieu sur Toulouse, souvent ont été aussi menées avec des gens de chiche. Je pense que chiche était déjà présent lors de, je crois que c'était au mois de novembre quand il y a eu, enfin donc il y a quelques années, la mort de Sébastien Bria. Mm-hmm. Donc on rappelle, jeune homme de 23 ans, donc qui essayait avec d'autres d'arrêter un convoi de cargaison, donc un train de convoi nucléaire, donc de déchets nucléaires, et qui en est mort. Mmh. Et donc il y a eu pas mal d'actions, donc les mémoires l'ont un peu oublié, mais certains n'ont pas.
Ouais, il y avait des gens de chiche sur cette action, il y en a eu à peu près tous les hivers en fait.
Et il y a eu encore des gens de chiche effectivement pour être présents donc au moment de Fukushima, quand il y a eu effectivement tout ce qu'il y a eu ici sur Toulouse au niveau de... C'était plus des personnes issues d'eux et qui représentaient...
Oui, c'était des anciens de chiche.
Des anciens. En fait. Mais on sentait bien effectivement une mouvance de gens qui veulent bouger, qui veulent faire. Donc finalement, vous blasez un petit peu de chiche à ce moment-là et vous lancez avec d'autres l'an 02. Quels autres donc qui ne font pas partie de chiche, par exemple?
On a fait ça à peu près tout seul. Il y a eu tellement de gens qui sont passés par chiche en fait qu'on a eu le choix en fait.
Alors revenons donc à l'an 02 et cette aventure. Déjà savoir actuellement donc c'est un semestriel, il fait 60 pages de très très belle qualité, donc c'est un plaisir d'avoir, c'est un objet aussi, hein.
Merci.
C'est un objet magazine, pas livre encore, mais donc avec une mise en page très très claire et en même temps très fournie au niveau du propos. Je reprends aussi des dossiers que vous avez fait le dossier « Nous avons besoin d'une critique de gauche de l'État ». Si tu peux me décrypter, vas-y.
Ah oui, alors ça c'est un article de Jacques Prade.
Uh-huh.
Jacques Prade qui
est sur Toulouse.
Qui est sur Toulouse, qui est un Toulousain, qui s'occupe d'économie sociale et solidaire, et pour qui l'économie sociale et solidaire donne les moyens de créer localement des structures et puis même d'imaginer le dépérissement de l'État à travers des petites communes autogérées qui produisent ce qu'elles consomment, qui consomment ce qu'elles produisent. Voilà, c'est assez excitant en fait comme texte, je le cite assez souvent.
D'accord, ouais. Nous avons besoin d'une critique de gauche de l'État. Oui, voire je pourrais même aller plus loin, hein. On aurait peut-être besoin d'un État de gauche, peut-être.
Ouais, ça c'est une autre
pour de vrai.
Une autre chose.
Une autre chose, donc c'est de la fiction là pour l'instant. Donc j'ai vu notamment aussi comme article ou comme dossier, je ne sais plus, contre le vandalisme de quelques-uns, Thoreau, T-H-R-E-A-U, Thoreau et la gestion collective de la nature, Thoreau qui est notamment beaucoup repris par tout ce qui est culture de la non-violence.
Ouais, c'est un auteur qui est assez à la mode en fait, qui est beaucoup traduit en ce moment. Publié, enfin il y a moyen de lire tout son journal et c'est un auteur qui a passé 22 mois dans une cabane au bord d'un lac,
ouais.
Et qui était un adepte un peu de la simplicité volontaire, de l'action de désobéissance tout ça, ouais.
Oui, qui s'était illustré en étant lui-même désobéissant, refusant notamment d'infliger, quand il était instituteur, des châtiments corporels aux enfants.
Et, oh, je savais pas ça.
Et il s'est fait notamment, il a perdu son poste notamment. Et puis, il a aussi refusé de payer ses impôts pour la part qui revenait à l'armée.
Oui, il a refusé de payer ses impôts. Mmh. Alors, c'est vraiment une grande histoire. Il est allé en prison et le lendemain, sa mamie est arrivée et elle a payé pour,
la caution.
Elle a payé pour lui.
Ouais. Mais en tout cas, voilà, donc quelqu'un qui marque un petit peu une culture de non-violence, de désobéissance. Et puis, je vois aussi que vous avez fait un article de Léa Sébastien, si tu peux m'en parler plus, sur les nimbis. Le nimbi contre l'intérêt général, tout contre. Donc, qu'est-ce que le nimbi? Ça, c'est très sympa et très parlant, je trouve aussi, une fois qu'on sait ce que ça veut dire, bien sûr.
Ouais, alors Léa Sébastien, Léa Sébastien, elle est toulousaine aussi, elle est géographe au Mirail. Et alors voilà, ça c'est un nouveau dossier, c'est celui qui de notre dernier numéro qui s'appelle Alerte au territoire, avec l'idée de parler des projets d'aménagement comme le Grand Paris, comme des projets qui ont lieu aussi comme l'autoroute A65, avec en essayant d'accentuer la question politique, en fait, la question d'élite autoproclamée qui décide d'aménager par en haut un lieu que les habitants vivent de manière totalement différente, en fait, et qu'ils ont envie de protéger. Et alors NIMBY, NIMBY, ça veut dire not in my backyard, ça veut dire pas dans mon jardin.
Voilà.
Et ça sous-entend pas dans mon jardin, mais un petit peu ailleurs, si vous voulez, c'est pas un problème.
Voilà, genre l'autoroute, la centrale nucléaire, la déchetterie, les déchets toxiques, tout ce qu'on veut, mais d'accord, not in my backyard, ouais. NIMBY.
Et en fait, c'est une accusation qui est souvent donnée, en fait, aux gens qui protestent contre des projets d'aménagement. On leur dit qu'ils sont, en fait, d'affreux égoïstes qui ont besoin de l'aménagement en question, parce que, évidemment, on ne peut pas faire sans électricité, on ne peut pas faire sans aéroport, on ne peut pas faire sans machin. Ils ont juste envie que l'aéroport, les nuisances, en fait, soient un petit peu plus loin. Et en fait, ça c'est... Alors je sais pas si ça a une réalité, je pense que ça a une réalité, en fait, cette vision des choses, mais ce qu'on observe aujourd'hui depuis 5, 10, 15 ans, c'est que quand même il y a un enrichissement incroyable des mouvements d'opposition au projet d'aménagement, un discours qui se construit, qui pense vraiment le bien commun, qui pense vraiment à comment est-ce qu'on peut faire sans cet aménagement, plutôt que comment est-ce qu'on peut faire avec cet aménagement ailleurs. Et en fait, Léa Sébastien, elle s'intéresse à un petit village, la commune de Saint-Escobille, au sud de la région parisienne, un territoire rural, mais en Île-de-France. Et comment, en fait, une petite association est passée d'une opposition assez franche et simple et pas chez nous est devenue une référence dans le domaine des décharges, en fait, de déchets.
D'accord.
Et a produit tout des alternatives, enfin a produit un discours sur les alternatives, sur les manières aussi de gérer les déchets autrement qu'en les enfouissant ici ou là.
Donc les gens qui habitent cette commune qui ont produit ça.
Une fois
qu'ils ont eu la déchetterie dans la figure, si je puis dire.
Ouais, alors ils l'ont toujours pas. Ils sont toujours menacés par la déchetterie.
Ils sont toujours menacés, d'accord.
Mais il se trouve que le truc a duré 10 ans. Mm-mm. Et au bout de 10 ans, en fait, d'être menacés par le projet, ils se sont formés, ils ont découvert plein de choses sur qu'est-ce que c'est qu'une décharge, comment ça fonctionne, quelles sont les alternatives. Et donc, ils sont devenus des spécialistes de la gestion des déchets pour produire, du coup, un discours qui peut être une alternative concrète à ce qu'on leur proposait.
Mm-mm.
Autrement que pas dans mon jardin, mais ailleurs.
Intéressant, parce qu'effectivement, la démarche pas dans mon jardin, donc not in my backyard, NIMBY, donc c'est un peu ce qui se passe tout le temps. Je veux dire, ça nous dérange pas qu'il y ait de l'uranium puisé au Niger, etc. Puisque de toute façon, c'est pas chez nous que ça pollue. Donc,
ouais,
par exemple.
Ouais, c'est vrai que là, on arrive à un degré de conscience et tout par rapport à toutes les nuisances et tout qui est sur le plan national et tout. On arrive à comprendre qu'on n'a pas envie que ça se passe chez l'autre, mais il y a beaucoup de choses qui restent complètement invisibles. Et par exemple, hier, je parlais des terres rares. Invité à l'émission magazine.
Mmh.
Et je parlais d'une usine de terres rares et toutes les nuisances, en fait, que ça occasionne. Et c'est vrai que les terres rares, quand tu achètes un iPhone, oh, les terres rares, c'est toute une série de minéraux.
D'accord.
qui sont complètement indispensables dans les téléphones mobiles, qui sont indispensables dans les batteries, dans les LED aussi, dans toutes sortes d'équipements, y compris des équipements écologiques, et verts, et durables, et tout ça. Et en fait, c'est des terres qui sont assez compliquées à traiter et qui produisent beaucoup de déchets radioactifs.
Rien que ça.
Il faut secouer des tonnes et des tonnes de terre pour avoir un tout petit peu de terre rare. Et les terres d'à côté, les terres qui sont mêlées aux terres rares, c'est des terres qui sont radioactives naturellement.
Mm-hmm.
Mais le fait de les sortir de là où elles sont et où elles font un petit bruit de fond mm-hmm. radioactif et de les mettre toutes au même endroit, ça pose des problèmes. Des problèmes de santé.
Effectivement. Donc cette question, not in my backyard, c'est partout que ça pourrait se poser finalement.
Ouais. Il s'agit de mettre un peu en lumière pour qu'on se rende compte un peu de l'impact de tout ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, la dynamique qu'il y a de dénonciation des grands projets inutiles est assez intéressante en fait. Et c'est un sujet qui sera traité dans le prochain numéro.
Aussi.
Donc sur la coordination sur comment est-ce que les opposants aux grands projets inutiles se coordonnent entre eux et puis nourrissent un discours d'opposition qui est assez global en fait et qui est une critique de la société, une critique des projets productivistes, de fuite en avant, économiques et écologiques.
Mmh.
Et voilà, c'est un sujet qu'on traite avec l'aide de reporters, avec un journaliste de reporters qui écrit pour nous un échange de... Alors, il s'appelle Barnabé Bengtin.
Mené par Hervé Kampf, effectivement. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que là, donc, vous en êtes au numéro 5 et que le 6 va bientôt sortir. C'est quand ?
Le 6 va sortir fin septembre, début octobre.
D'accord, donc on le retrouvera donc dans toutes les bonnes librairies ici et ailleurs. Vous avez donc une adresse qui est à Paris par contre. Ça, c'est une adresse contact, c'est un contact global en fait. J'ai une adresse donc Cité le Roi à Paris, dans le 20e.
Ouais. Alors c'est le copain qui s'occupe des abonnements. Si jamais vous écrivez, vous envoyez un petit chèque à Cité le Roi, ça sera à Paris, chez un membre de la rédaction. En revanche, notre imprimeur, lui, dans le Nord, il est à une rue de la Belgique. Et je suis venue ici, en Midi-Pyrénées, pour bosser avec des copines qui sont en Midi-Pyrénées, en Aquitaine. Et donc, on est un peu tous séparés.
Et en même temps, donc, c'est ça, vous recueillez des articles de gens aux quatre coins de la France, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
D'accord. Donc c'est vraiment le groupe affinitaire. Tant pis, enfin, il peut bouger, les sujets peuvent bouger. De toute façon, ça... Toujours le même esprit, si je comprends bien, toujours sur ce projet éditorial. L'an 02, pourquoi, bien sûr ?
Ah, l'an 02, parce que l'an 01...
Bah oui, évidemment.
Ouais, l'an 01, alors on a été surpris hein, quand on a sorti de s'apercevoir qu'en fait, on voulait faire une revue qui s'adresse à tous et qui prend les gens par surprise, et ils le lisent, et puis c'est une belle revue et tout ça. Et voilà, ils découvrent l'écologie. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait un titre complètement abscon. Que l'an 02, en fait, ça disait rien à personne. Que l'an 01, en fait, n'était pas le film culte que tout le monde connaissait, qui était le film culte que tous les militants anti-travail et militants écolos connaissent, mais ça va pas
militant
beaucoup
au-delà. Ou simple poète de la vie, parce que je crois que c'est vraiment une magnifique utopie, qui peut parler aussi à tout plein de cinéphiles, enfin, je sais pas.
Ouais, des cinéphiles, je sais pas. En BD, par exemple, il ressort en BD à l'automne.
Et donc, vous êtes aperçu que c'était pas si connu que ça, donc je te laisse finir.
Oui, on s'est aperçu que c'était pas si connu que ça, et puis le logo était pas non plus très très lisible, mais voilà, on s'appelle l'an 02 parce que voilà, l'an 01 c'était une démarche qui nous est pas mal tripée. On n'a pas réussi à être aussi drôle et tout, mais on a une démarche un peu comme ça, décalée, un peu poétique. On essaie de faire ça. Ouais. Et puis c'est moins pour montrer ce qu'on a réussi à faire. Regardez, nous sommes les héritiers de l'an 02, de l'an 01. Uh-huh. Que pour se donner un but, en fait, de faire quelque chose d'aussi sympa que l'an 01.
D'accord. Donc, renvoie à l'an 01. Donc, à tous ceux qui l'ont pas vu, empressez-vous d'aller chercher ça sur Internet, ça se trouve. Enfin, bon, c'est, et c'est hyper nécessaire, effectivement, une utopie presque vivante, on y croit parfois.
Ouais, c'est en noir et blanc, et puis le son grince un peu et tout, mais ça parle vraiment très fort. Ouais.
Tout à fait. Sur Toulouse, il y a eu plusieurs groupes qui ont fait des projections en plein air et, vraiment, c'est salutaire toujours. Donc, l'an 02, l'an 01. Alors, on a la date du test théâtre après. Mmh. Alors, du coup, on avait vu qu'il y avait un très beau texte, donc un poème, dans le numéro 5. Si tu voulais justement nous l'offrir.
Écoute, j'ai pensé à un qui vous ferait plus sourire à Toulouse, en fait.
Allez, d'accord. Donc, tu nous raconteras de. Donc, voilà. Bah, je te laisse donc nous le présenter, nous le lire, alors, Aude.
D'accord. Alors, c'est tiré du Robert des Aménageurs, qu'on a nous-mêmes inventé. C'est la définition du verbe désenclaver. Désenclaver. Verbe transitif direct. Apparu à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, signifie alors l'action de rompre par la route ou le chemin de fer l'isolement d'une partie du territoire qui était jusqu'alors enclavée, du latin inclavare, fermé avec une clé. Alors que la France se couvre progressivement du million de kilomètres de routes et des 30 000 kilomètres de voies ferrées actuelles, alors que chaque lieu habité du territoire est rendu facilement accessible en voiture ou en train, le mot perd progressivement son sens initial. Désenclaver signifie aujourd'hui l'action qui permet de faire accéder plus vite à la capitale, entre parenthèses Paris, depuis un point quelconque. Exemple, la ligne à grande vitesse doit désenclaver Toulouse. Ou, il faut désenclaver la Bretagne. Par extension, sont considérés comme enclavés, et donc à désenclaver, tous les territoires et leurs habitants non équipés d'une ou plusieurs infrastructures de transport rapide, autoroutes, lignes à grande vitesse, aéroports. À donner, début XXIe siècle, nous étions tellement enclavés, ou se faire désenclaver, et plus récemment, aller tout doux faire enclaver, vulgaire.
Un texte que l'on doit à qui ?
Que l'on doit à la rédaction.
La rédaction, merci la rédaction. Donc vous êtes bien fendu la poire sur désenclaver, et c'est le dossier en même temps, hein, on rappelle.
Oui, c'est des copains désenclavés de l'autoroute A65 en fait, qui ont été le plus motivés pour écrire le texte. Ouais.
Et d'ailleurs, je crois qu'il y a aussi une photo avec un monsieur avec une pancarte, visiblement dans une manifestation, où il note enclavé, heureux, c'est ça ?
Ouais, c'est un monsieur qui est enclavé et qui est heureux.
Enclavé, heureux, c'est oui. Je crois que c'est un terme qui va bientôt faire partie effectivement du vocabulaire courant, malheureusement. Et merci effectivement sur Toulouse. Oui, on risque malheureusement d'être désenclavé par cette LGV qui nous fout un bordel monumental, sur Toulouse et ailleurs, quoi. Surtout, enfin, tout autour, c'est terrible, quoi. Merci beaucoup de toutes ces informations. J'aimerais te laisser le mot de la fin. Donc, parce qu'on peut faire un mot d'ailleurs de transition, Aude, puisque donc le sujet qui suit, c'est la ZAD du Testé. Mmh. La ZAD du Testé, ce petit territoire, donc, mais quand même 28 hectares de forêts, zones humides classées, zones protégées, espèces protégées, etc., qui risquent d'être à partir du 1er septembre, donc rayés de la carte, quoi, c'est-à-dire si ils arrivent à le faire. Et donc il y a ce week-end, 23 à 24 août, un grand week-end organisé par le collectif de défense donc de la zone humide du Testé, le collectif le plus ancien, le plus légaliste, et qui fait là un week-end qui envoie du bois, et tu es l'invité également de ce week-end.
Oui, j'espère passer pour parler d'un projet de barrage en Malaisie, avec des gens qui luttent contre un barrage. Alors pour le coup, c'est 400 km² de terre qui sont potentiellement inondées.
Ouais, donc pas inintéressant que tu aies en parler effectivement au Testé, ça c'est sûr. Et voilà, et je voulais te laisser quand même le mot de la fin sur l'an 02.
Mais qu'est-ce que tu veux que...
Ce que tu veux.
Que l'an 02, ça paraît que tous les six mois, parce que c'est très fatigant à produire, et qu'on est tous bénévoles, et surtout, on apprécie beaucoup quand les gens s'abonnent, et que quand on les croise, ils nous disent qu'ils aiment bien comme tu le fais ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation.
Avec grand plaisir, et merci beaucoup pour ce que vous faites. Donc, vraiment, continuez. L'an 02, un pas de côté, dans toutes les bonnes librairies.